Élevez la plateforme de l'heure. Le 4
avec votre boy Tony.
Shout out Larry derrière la cam.
Élevez.
Bienvenue sur la plateforme Élevez, la plateforme de l'heure. Aujourd'hui avec le 4.
Tony, shout out Larry à la cam.
Yes sir, toujours là. Puis aujourd'hui, on a un guest avec nous, Julien, entrepreneur, artiste. Je pense qu'on va avoir une belle conversation, apprendre des trucs. Il a fait des moves à l'extérieur, travaillé avec des collaborations d'artistes pour les vêtements. Fait qu'on va faire le tour un petit peu de tout ça, là, le textile. En particulier un brand qui a une compagnie de vêtements. Puis, c'est ça. Comment ça va aujourd'hui, Julien?
Ça va bien, toi?
Yes, sir. Ça va, ça va. Il fait beau. On est bon. Puis toi, Tony?
Ça va, ça va. Hey, il y a une semaine, on avait un cold d'hiver quand on sortait le soir. Puis là, je pense qu'il faisait pas mal chaud cet été.
C'est débile pour la dernière semaine.
Là, on dirait que... C'est le grand chaud qui retourne avant le grand froid, disons. Là.
Toujours les surprises de septembre.
Exactement.
On ne sait plus comment s'habiller.
C'est ça.
Puis toi, dans le fond, Rive-Sud, Saint-Bruno, c'est de là que tu viens. Hein?
Otterburn Park, plus précisément.
Okay.
Je
ne
sais pas si tu connais.
Non, c'est ça.
C'est collé sur Mont-Saint-Hilaire, dans le fond.
OK.
J'ai grandi là. C'est Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park.
OK, parfait. Puis c'est là, dans le fond, là, que tu as... On va en parler plus tard dans l'émission, mais t'as un local pour ta vente de vêtements dans un centre d'achat, si je me trompe pas, qui est le centre d'achat?
Au Promenade Saint-Bruno, oui.
OK, parfait.
Mais tu sais, avant ça, il y a eu bien des affaires, là, pour être honnête. Dans le fond, j'ai commencé à vendre des vêtements, là, j'avais 20 ans.
Ben c'est ça, je voulais partir un peu de là pour nous situer, savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment. Ouais. T'es un gars qui est dans le textile, t'es un entrepreneur, on a entendu tes chansons, des beaux vidéoclips aussi, tout ça. Je veux qu'on fasse le point, mais je voulais en parler là, pour que les gens puissent te situer, comprendre un peu ce que tu fais. Mais je voulais savoir, justement, comme toi qui viens de la Rive-Sud, nous, on est tous des gars de la Rive-Nord, la culture, que ce soit la musique, le style, les vêtements, comment c'est arrivé un peu dans ta vie? Tu sais, nous, pour nous donner l'analogie sur la Rive-Nord, on le sait qu'on est toujours un petit peu en retard. On a la culture un petit peu après que les Montréalais même qui sont sur l'île. Comment ça se passait sur la Rive-Sud, qui est une vision un peu que nous autres, on voit pas? Est-ce que c'est la même chose que la Rive-Nord?
Je pense que c'est pire que la Rive-Nord, sincèrement.
Okay.
C'est sur la Rive-Sud, ben on a quand même eu sans pression qui venait d'y habiter, il me semble, à Saint-Bruno.
Exact.
On a toujours eu beaucoup, nous, la culture plus skateboard qui reliait avec les hip-hop, snowboard, skateboard. Je pense à cause des Empire, entre autres, qui amenait cette culture-là sur la Rive-Sud. Mais ça a toujours été un de mes problèmes à moi qui voulais faire de la musique. Sur la Rive-Sud, c'est qu'il n'y avait pas vraiment l'entourage pour pouvoir m'appuyer là-dedans parce que c'était comme quelqu'un qui veut faire de la musique ou un créateur là, à Otterburn Park, c'est comme juger un peu qu'est-ce que c'est ça, tu sais.
Ben ouais, comme un weirdo, Chris, qu'est-ce que tu fais là?
Il
n'y
a rien à faire avec ça au Québec, puis bababa, exactement. Faut pas enlever que les gars de Saint-Hyacinthe comme Rhymes, Farfadet. Dans le fond, moi, quand j'ai recommencé à faire de la musique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais de la musique quand j'avais genre 9-10 ans. Là. J'avais un groupe de musique avec la fille à Sylvain Cossette. On faisait des spectacles privés, publics, concours. Je faisais de l'argent, on faisait de l'argent avec ça. Et puis, je pense, vers peut-être 13-14 ans, là, tranquillement, on a chacun pris nos chemins. L'adolescence arrivait, les valeurs puis la vision changeaient. Fait que après ça, j'ai recommencé à faire de la musique. J'avais 18 ans. Avec Striger, j'ai enregistré mon premier mixtape à Saint-Bruno, justement. Striger était avec Carl Wolf. Et Carl Wolf était quand même populaire à ce moment-là. On a enregistré le mixtape. Et par la suite, par l'entremise, j'ai rencontré Casper. J'ai fait un featuring avec Casper aussi. C'était comme dans ces dernières années là, qui était un peu plus populaire. Mais il y avait Farfadet, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai rencontré Farfadet à... J'avais 18 ans. Lui était à Belleuil à ce moment-là. Et puis, après ça, il y a eu son petit studio à Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai commencé ma première ligne de vêtements qui était vêtements confortables. Et puis, je vendais des vêtements en avant du studio, puis il y avait le studio en arrière avec eux.
Puis quand tu nous parles de Belleuil, Saint-Hyacinthe, Otterburn Park, pour nous, admettons, de la Rive-Nord, c'est des noms que j'ai entendus, mais pour me situer, c'est tout un peu des villes, une à côté de l'autre, là, dans le même secteur.
Ouais, Saint-Hyacinthe, mettons, c'est plus dans les champs, fait que c'est à peu près une vingtaine de minutes de Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire.
OK,
plus en allant vers Québec, Drummondville. Je sais pas si tu connais.
Ouais, ouais. Puis j'imagine qu'en grandissant, tu sais, même nous autres ici, je me rappelle, là, tout jusqu'à aujourd'hui, mais dans les débuts, comme tu parles, je pense que Rhymes, Farfadet, il y avait un bon run, ouais. Là, ils démarraient leur truc. Il y avait un autre gars avec eux, je me trompe pas, Oli.
Il y avait Oli, il y avait Saint-Sou, il y avait Confus, il y avait Card, c'est tous des gens que je connais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il faut savoir, moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup d'artistes de Montréal aussi. Je me promenais avec mon speaker. Là. On écoutait Roy Nock, MFG, Connaisseur, Block B. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup attiré par le hip-hop aussi qui se faisait à Montréal. On a même Snagashi, avec qui on a rencontré plus tard en personne. On a fait des affaires. J'ai toujours suivi un peu ce qui se faisait aussi à Montréal. Mais pour revenir à ce que je disais à Otterburn Park, c'était comme impossible de faire de la musique. J'ai sorti 2 mixtapes. J'ai vendu comme des milliers de mixtapes à peu près. Là, dans les rues main en main. Puis c'est à l'âge de 20 ans, j'ai commencé un peu à vouloir prendre un autre trajet dans ma vie. J'ai pris des décisions par rapport à bien des choses qui se sont produites. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat, on parlait pas beaucoup de ça il y a plusieurs années. Donc, moi, je me suis toujours cherché à savoir ce que je voulais faire. Puis, je me souviens être en train de tondre le gazon chez Bonneville. Je sais pas si tu connais. Ouais, maison Bonneville. Puis, il y avait une Rolls-Royce. Je compte tout le temps cette histoire-là. Puis je me suis dit, calice, c'est sûr, certainement pas en coupant des gazons que m'avoir une Rolls-Royce, tu sais. Puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me parte en affaires si je voulais vivre vraiment la vie que je souhaitais, tu sais. Je roule toujours pas en Rolls-Royce, là, aujourd'hui, mais...
Quand tu fermes les yeux, c'est ce que tu vois.
Ouais, ben c'est sûr, j'aimerais ça en avoir une.
Non, jour. Mais c'est important, mais... qu'est-ce que tu dis, honnêtement, excuse-moi de te couper, c'est d'avoir la vision, puis je voulais en venir là aussi un petit peu en tant qu'entrepreneur. Ça prend souvent un moment, je pense, déclic, t'enclenches l'engrenage, puis tu te dis, garde-moi, c'est ça, puis je vais travailler fort pour me rendre là, parce qu'on se le cachera pas, les gens, ils pensent que tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut être employeur et non employé. Puis ils pensent qu'en devenant employeur, ils vont moins travailler, la vie est cool, tout ça. Mais c'est ça que je veux le souligner, parce qu'élever la plateforme, on essaie toujours de pousser un peu la positivité, puis le mindset, puis tout ça. Puis ça, c'est important de le mentionner. C'est pas ça. Être employé, tu travailles 40 heures. En tant qu'employeur, tu vas peut-être te retrouver à en travailler 60, 70, puis 80 pour avoir ton nom sur la ligne, puis de pousser ton mouvement, ton idéologie, ton brand, peu importe c'est quoi que tu fais, c'est 2 fois plus de travail, 2 fois plus d'acharnement, mais si tu le tiens vraiment à cœur, c'est important plus que tout pour toi dans ta vie. Mais toujours un petit moment déclic, puis je voulais en venir là avec toi, c'est quoi qui t'avait inspiré à pousser ça, l'entrepreneuriat? Moi, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mes parents qui ont parti une compagnie de paysagement quand j'avais 11, 12, 13 ans, puis après ça, j'ai travaillé comme 10 ans avec eux autres, c'est eux qui ont implanté cette graine-là dans ma tête. Oui, c'est peut-être juste une compagnie de paysagement, mais il y a les mêmes bases dans tout business, d'aller chercher une clientèle, de faire des estimés, de faire un job, de parler avec ton client, de trouver la demande, de la combler. Tu sais, c'est la même chose un peu dans tout. Après ça, tu l'appliques dans qu'est-ce que tu es, mais je voulais qu'on en parle. Fait que toi, tu dis c'est en coupant des gazons, la Rolls-Royce, c'est un peu ça là, qui t'a alimenté puis qui t'a ouvert l'esprit là, à devenir entrepreneur. Puis après ça, c'est quoi les premiers pas que tu as pris vers ça, admettons, que tu peux te rappeler, minime qu'il soit?
Après ça, c'était de trouver c'était quoi que je ferais. Puis c'est là que l'idée de partir dans le vêtement m'est venue. J'ai toujours été attiré par ce domaine-là. À cette époque-là, je me disais, en plus, je pourrais m'habiller avec ma marque. Puis je connaissais aussi du monde un peu populaire. Fait que je me disais, je pourrais l'en mettre sur eux autres, puis ça ferait connaître. Puis dans ce temps-là, c'était en 2010-2011. Fait que Walk-In commençait à être populaire. C'était un peu aussi l'arrivée d'Instagram, puis Facebook qui était utilisé pour commencer à faire propulser ton brand. Fait que c'était une avenue facile pour pouvoir démarrer, tu sais. Fait que j'avais vu la possibilité de le faire, puis ça prenait pas tant d'argent pour démarrer. Je me souviens encore, là, je pense que la première commande j'ai passée, c'était comme 330$, là. Fait que j'ai fait une ou deux boîtes de crew neck, là, trois couleurs, quatre couleurs, puis on a commencé comme ça, puis le monde, il venait à la maison, là, chercher leur crew neck. Puis,
tu faisais ta pub comment, si je peux te poser la question, genre comment on va dire, là, quand ça a commencé, là, ça, c'était vraiment le début, là, quand t'as passé ta première commande, genre, c'était quoi, comment te market ça, genre, comment
c'était
ça a
Facebook, commencé? Facebook puis Instagram, tu sais, j'étais quand même dans mon coin, je veux pas dire connu, là, mais tu sais, je connaissais, beaucoup de gens me connaissent dans mon coin, puis j'ai utilisé ça, cette notoriété-là, puis c'est comme ça que ça a commencé, puis au même moment... Drôlement, des amis ont commencé à faire la même affaire. Fait que là, on était comme en compétition. Fait que ça créait quelque chose.
100%, fallait se démarquer. C'est comme tu as dit, c'est comme une compétition. Fait que là, c'est le meilleur coureur qui va l'emporter un petit peu. Fait que c'est vrai que, justement, je pense aussi, en étant artiste, tu as pu le voir aussi dans le milieu artistique. C'est ça qui est nice un peu en tant qu'artiste, c'est que tu as toujours de la compétition autour de toi. Puis on dirait que ça te conditionne à donner la meilleure version de toi-même dans qu'est-ce que tu fais, que ce soit une business que tu te lances ou un art que tu pratiques en tant que tel. Je trouve ça vraiment nice. Là. Justement, le vêtement, je trouve que ça va te pair un peu aussi avec la culture, avec le mouvement, avec la musique. Fait que, c'est pour ça que je trouve ça nice, man. Il y a une connexion là-dedans. Puis le fait que t'as eu cette chance-là d'avoir, si on pourrait dire, ben il y a deux côtés tout le temps de médaille. Hein, du monde qui dit « Ah, j'ai de la compétition, c'est pas bon pour moi. » Toi, t'as pris ça puis t'as mis ça comme carburant, comme fuel. « Let's go race fuel, mon gars. On s'en va en mode best coureur. »
Non, puis je suis pas quelqu'un... Je regarde pas vraiment la compétition. Je me consacre sur ce que je peux faire moi, à mon meilleur, puis les résultats viennent.
Toi, c'était déjà inné en toi. T'as pas eu besoin de compétition pour savoir
I
do my best in all I do, basically.
Non, je pense juste que tu peux perdre beaucoup d'énergie à regarder la compétition, puis genre à te comparer, puis...
C'est vrai,
100%. Ça peut juste te rendre un peu négatif. Je vais pas te cacher que oui, je regarde un peu, mais si je m'attarde à ça, pour moi, c'est de la mauvaise énergie que je mets là. Je suis bien mieux de me concentrer sur ce que je peux faire pour que le brand croît, puis
100%.
Mettre toute mon énergie là-dessus.
Oui, puis des fois, on focus trop sur la compétition, sur ce que les autres font, puis ça va changer un peu notre manière de faire, tu sais. Puis si on avait déjà une idée au départ, elle peut être super bonne, mais tu ne l'as pas appliquée, puis là, tu te fies un peu sur les autres, puis finalement, tu dérives ton idée pour aller rejoindre un marché qui fonctionne déjà, ce qui est la sauce pas mal que beaucoup les artistes font, puis même toute entreprise en ce moment, ils reprennent toujours quelque chose qui existe déjà.
Je trouve que c'est une chose présentement, les gens sont plus créatifs.
C'est vrai.
Les gens font juste se copier. Celui l'a fait, là, je suis capable de le faire meilleur. Puis c'est comme... Il n'y a plus de... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont créatifs. C'est juste de la réplique, que ce soit de la musique, que ce soit n'importe quoi.
Je pense que, tu sais, on a parlé des réseaux sociaux, ça a apporté beaucoup de bien, beaucoup de visibilité, mais ça a apporté, comme toute chose, du négatif, je crois. Puis c'est que tout le monde peut voir en temps réel ce qui se passe. Fait que là, tu peux aller voir autant la musique, les vêtements, peu importe quoi, puis tu te dis « Ah, oh, ça marche, ça, c'est le son qui marche,
ça,
c'est
le visuel qui marche. » Tu sais même pas si ça marche, c'est ça l'affaire en plus avec les réseaux sociaux. Les gens voient des likes, ils voient des vues, ils voient quelque chose qui est un peu une illusion, puis en bout de ligne, la réalité, tu la connais pas vraiment.
100%.
Il y en a là qui coulent présentement, là, puis... Tout le monde pensait qu'il roulait tellement, puis ici, puis ça. T'sais. Même moi, je me souviens, je suis allé au Franco le 15 juin dernier, puis on me dit « Ah, on te voit partout, tout va bien », puis ça allait pas si bien que ça. Là, quelques semaines après, justement, il a fallu fermer les portes. On s'est fait pousser dehors, mettons, par les promenades Saint-Bruno, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, tu sais, je trouve des fois, c'est tellement de l'illusion, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qui est la réalité, là, pour vrai. Il faut faire attention à ça.
C'est vrai, 100%. Puis je pense que, aussi, je suis curieux de savoir ton take là-dessus. Est-ce que tu penses que, exemple, une pièce de vêtement, c'est un peu comme une voiture dans un sens? On parle pas pour tout le monde, mais, exemple, souvent, il y a des gens, ils vont... J'ai entendu Gary Vaynerchuk dire ça à un moment donné, puis il disait... Souvent, les gens vont acheter une certaine marque de véhicule pour comme être vu comme une certaine, genre, comme comment je pourrais dire ça, une certaine partie de la société, que ça a un certain statut.
Ben, je peux te dire qu'une affaire que j'ai remarquée dans la dernière année, les gens sont vendus sans même le savoir. Sont vendus aux grosses entreprises.
Apple, par exemple.
Zara, Uniqlo... En ce moment, ce qui est, ils achètent des marques, pensant que c'est super cool, puis tu sais, ça a pas vraiment de valeur, là. Le seul que t'enrichis, c'est le go-boot, là. Mais les gens sont, je pense, sont un peu inconscients de ça. Le consommateur pense pas vraiment à ça. Mais c'est vraiment la difficulté présentement, comme moi j'ai eu et que j'ai, c'est d'être indépendant. Les gens n'encouragent plus les entreprises indépendantes. Puis c'est je pense même pas c'est parce qu'ils le veulent pas, c'est qu'ils sont tellement
brainwashed.
Je dis tout le temps dans la matrice, là.
Ouais.
Ils sont dans la matrice, ils se font envoyer plein de commerciales, ça pop sur leur téléphone. Fait que
ils voient les gens qui ont réussi encore là, qui est un peu une illusion sur les réseaux sociaux, que ce soit des artistes ou des influenceurs, puis ils portent les grosses marques, la Patek, la Rolex, la Rolls-Royce. Fait que c'est tout des brands, c'est du branding.
Ouais.
Puis ils sont brainwashed par ça. Ils s'imaginent que la réussite qu'ils voient devant leurs yeux sur les réseaux sociaux, si c'est ça qu'ils utilisent, c'est ça qu'ils portent, ben c'est ça que ça leur prend aussi pour atteindre la réussite. Mais c'est pas vrai, c'est comme un couteau un peu dans le pied que tu essaies d'avoir ces gros produits-là qui coûtent excessivement cher en pensant que ça va te créer un cloud puis que les gens vont embarquer dans ton truc, que ce soit artistiquement. Mais si ton produit n'est pas bon à la base, ton image, oui, ça peut aider, mais juste à quel prix, tu sais?
100%.
Puis oui, c'est une illusion, c'est une fausse illusion. Ils s'imaginent qu'ils ont besoin de ça. Le brand en tant que tel a probablement réussi d'avoir un branding si important, si pesant que les gens, ils savent même pas pourquoi, mais ils ont besoin de ce produit-là, puis ils vont se le procurer.
Si tu prends les grosses marques, là, que tu parles de Versace, Gucci, dadada, là, c'est pas compliqué, là. Ils ont tous mis leur marketing à ce niveau-là, là. Ils ont engagé les Farrell de ce monde, Kanye West, Virgil Abloh, puis tout ça. Ils mettent leur argent là parce qu'ils savent que c'est des bons consommateurs. Ils savent qu'ils vont tout faire pour acheter ça. Fait qu'ils ont mis leur argent là. Puis c'est ce que je dis depuis plusieurs mois. Dans le fond, le streetwear est en train de mourir parce que les gros comme les grosses marques dans le luxe sont rendues dans le streetwear. Parce qu'ils ont engagé ces gars-là. Ils ont engagé ces gars-là pour développer des lignes de streetwear. Donc, le luxe est rendu du streetwear et Zara, H&M et toutes ces brands-là copient ces marques-là. Donc, eux autres aussi sont rendus dans le streetwear. Avant, le streetwear, c'était niché, là. C'était les skateboarders, ben oui. Les snowboarders, les hip-hop.
Au Simons, là, quand t'allais dans la section streetwear, il y avait Jab et ces marques-là.
Exact, mais là, c'est rendu, tu sais, ils ont des graphic tees, ils ont de tout. Simons se sont appropriés le style aussi.
100%.
Je pense que c'est un peu aussi le reflet de la culture en ce moment. Tu sais, on l'a dit depuis une dizaine d'années à peu près, le hip-hop, le rap, la culture urbaine domine et dans une échelle internationale. Fait que je pense que le vêtement l'a compris et essaie de refléter ça aussi.
Ben, les riches l'ont compris et c'est pour ça qu'ils investissent là-dedans. Là,
exactement.
Puis je suis curieux de savoir, question textile, on va parler de textile qualité. On va prendre exemple un T-shirt. On va comparer exemple T-shirt, pas les vestes, parce que des vestes, il y a tellement de nuances et de variétés. Mais exemple, on parle d'un simple T-shirt, on va dire exemple Prada, Versace. Ou on s'entend, Versace sont nice. Ils ont des beaux modèles. Ils ont des beaux.
Ça leur coûte pas plus cher qu'un autre brand, c'est ça que tu veux dire?
Ben, ma question, en fait, c'est est-ce que c'est vraiment.
De meilleure qualité?
Textile, non. Est-ce que c'est meilleure qualité? Est-ce qu'il y a genre quelque chose qu'ils utilisent qui.
Non.
C'est vraiment le. Genre.
Ben, c'est sûr, si tu compares à un Blue Notes ou whatever it is, là. Mais non.
On va dire en termes de prix. On va prendre un chandail plain, OK? Ben plain, on va dire en termes de qualité.
Ça leur coûte le même prix à peu près.
Ah ouais?
Ben ouais.
Ah ouais?
À moins qu'il y ait plus de détails. Si tu fais le même shirt pour, je sais pas, moi, Zara, ça revient pas mal au même, sincèrement. Ils utilisent les mêmes manufactures, là. Ils ont pas...
Ça se peut que, exemple, Louis V vend un... Ou Louis V, whatever, Versace vend un T-shirt puis que ce soit manufacturé par une autre.
Ben, tu sais, comme Rolls-Royce, c'est BMW. Personne ne le sait.
100%.
Tu sais, c'est...
Subway, c'est McDonald's.
C'est ça. Puis c'est, moi, c'est vers là que je m'en vais, là. On en discutera un peu plus tard, là. Mais en ce moment, ce qu'on est en train de regarder, c'est de faire des acquisitions pas mal plus de brands et de chaînes, de magasins et de manufactures que de pousser juste textile. Textile risque d'être plus un semblant de winners. Donc, on va vendre des liquidations, des fins de saison de ces brands-là. On est déjà en train de négocier avec une cinquantaine de magasins là, présentement pour liquider leur stock. Donc, on va vraiment commencer à viser le marché qui marche au Québec. J'ai essayé pendant un an à faire quelque chose de plus cool pour me rendre compte que c'est pas la voie... C'est pas la voie recherchée présentement ici, surtout avec l'économie de ce monde-là. C'est les gens recherchent des affaires pas chères. Fait que on va offrir un magasin, dans le fond, qui va avoir de tout à tout prix. Puis tu vas avoir de 5$ à 100$. Puis tu vas avoir homme, femme, madame, tu vas avoir de tout.
Puis, tu sais, on a parlé d'entrepreneuriat, d'où ça a commencé pour toi.
Ouais.
Tu me dis, là, beaucoup le textile, le vêtement. Tu es là-dedans depuis plusieurs années.
Ouais.
Y a-tu quelqu'un qui t'a influencé pour le textile ou t'as-tu du monde que tu look up tout dans le design ou dans tout l'univers du textile? Parce que c'est un peu, des fois, inconnu pour la plupart des gens. Moi, je suis un petit peu là-dedans, fait que ça pique ma curiosité, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. Toi, c'est qui? Y aurait-tu quelqu'un qui t'aurait influencé ou jusqu'à la date d'aujourd'hui que tu regardes qu'est-ce qu'il fait, puis ça te donne un petit peu le gaz dans le feu pour t'alimenter?
Quand j'ai démarré, tu sais, je faisais du rap aussi. J'aimais beaucoup Uncut de Booba. Fait que, tu sais, je m'inspirais beaucoup de cette marque-là. Pour revenir au Empire aussi, Phil Grisé est quelqu'un qui a quand même eu un bon succès, qui a fait les choses, qui est parti de rien, qui a créé un hype, qui a dominé dans son industrie. Comme je disais, Walk-In partait aussi à ce moment-là, fait que c'était une inspiration. Mais tu sais, je pense que c'était juste qui je suis, qui tu sais, qu'est-ce que je regardais depuis que j'étais jeune. T'sais, moi, j'ai tout le temps aimé les magazines puis ces affaires-là, puis les documentaires, justement, la musique et tout. Puis comme je disais tantôt, je suis pas un gars de construction, là, moi. Même dans les derniers mois, tu sais, des fois, tu penses, bon, est-ce que je me reconvertis dans quelque chose? Je fais-tu autre chose? Puis je me vois pas vraiment faire autre chose. C'est quand même quelque chose que je comprends bien, que je connais bien. Fait que je me suis juste pas vu faire autre chose, je pense.
Des fois, c'est juste une restructuration, puis des fois, c'est le timing hein, aussi, malheureusement, même en business, des fois, on a la meilleure idée, on a le meilleur produit, on a le meilleur marketing, mais le timing n'est peut-être pas nécessairement le bon. On parle de l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, depuis une couple d'années après pandémie, on parle de récession. La musique, c'est une chose, streaming, tout ça, t'as juste quelques clics, tu peux aller l'écouter, ça coûte rien. Mais dans le textile, le vêtement, il faut vraiment que tu t'achètes le produit. Fait qu'il y a une nuance, il y a une différence là. Les gens, malheureusement, oui, sont prêts des fois, comme tu dis, à aller acheter du Versace, du Prada, tout ça, des grosses marques à je sais pas combien la pièce de vêtement, puis ils vont hésiter d'acheter quelque chose québécois qui est le quart du prix.
Ben, c'est parce que ces gens qui consomment ça, ils veulent être cool. Puis là, si toi, t'es pas assez cool, ils vont attendre que tu sois cool pour être cool de l'acheter. Fait que c'est comme une bataille. C'est une bataille, tu sais. Puis là, après ça, tu vas aller chercher la masse générale, tu n'iras pas à chercher parce qu'ils se voient pas porter tes affaires. Fait que là, t'as juste une petite niche entre les deux que t'es capable d'aller chercher, tu sais.
100%, 100%.
D'où tu parlais, justement, excuse-moi, je vais peut-être te couper, justement, un peu la restructuration que tu parlais d'approcher les grandes marques puis d'avoir justement textile, que ça pourrait être exact comme un winners. Moi, je trouve que c'est vraiment une approche gagnante puis c'est un très bon move en termes de business parce que souvent, le problème avec... On parle de du monde, monsieur, madame, tout le monde, c'est qu'ils aiment aller voir ce qu'ils connaissent.
Exact.
Qu'est-ce qu'ils connaissent pas?
Surtout au Québec.
Exact. Surtout.
Parce que j'avais beaucoup de gens de l'extérieur qui rentraient dans la boutique. France, États-Unis, j'ai eu Allemagne, tu sais, c'était beaucoup de Londres. Beaucoup de gens qui... Ah, ils rentraient parce que hey, c'est différent, cette boutique-là. Mais le Québécois est pas comme ça. Le Québécois a peur de la nouveauté, a peur de... T'sais, moi, je suis pas comme ça. Je suis totalement le contraire. Puis à un moment donné, je me suis, tu sais, dans les dernières semaines, je me suis dit, gars, ça fait 30 ans que j'essaie de comme de me battre contre ça, tu sais, d'essayer de véhiculer ma façon de voir les choses, mais c'est comme se battre contre un monstre, c'était mieux de t'adapter au marché. T'sais.
Exactement, 100%. Puis je pense que c'est une sage décision, puis c'est un wise business move exact. Pour de vrai, parce que c'est ça, souvent les gens... Tu sais, c'est différent en Europe. On dirait qu'en Europe, le monde a une différente mentalité, ouais. Surtout par rapport à la mode. Tantôt, on parlait justement qui est avancé un petit peu plus sur l'autre, mais je trouve que l'Europe ont vraiment comme ce côté-là avant-gardiste un peu dans la mode, puis ils n'ont pas peur d'oser. Puis la même chose pour le public, on dirait qu'il y a plus de monde qui sont portés à aller, genre justement, comme tu parlais, les petites boutiques, etc. Comme je suis sûr qu'en Europe, là, on va dire en France, etc., tu aurais eu beaucoup de Français qui seraient venus à ta boutique puis venaient voir, mais on dirait que ici, je sais pas si c'est juste pour le Québec, parce que Québec, Ontario, I guess, là,
ouais, je pense en Ontario, je remarque,
c'est toujours les mêmes magasins souvent, puis la seule chose qui varie des fois, tu sais, ça va être des magasins, des pot shops là, qui vont varier, qui vont être différents, là, parce qu'ils n'ont pas leur... là-bas, c'est pas comme la SQDC, tout le monde a leur licence, mais pour en revenir à ce qu'on disait, je pense que le average, la plupart du monde autour de nous, le monde que j'ai rencontré, ils aiment ça avoir quelque chose qu'ils peuvent rely on, qu'ils savent que ils ont déjà fait affaire avec... Tu sais, Winners, c'est une formule gagnante, là. Je veux dire, on dirait que le monde ira dans le magasin.
C'est le plus gros détaillant au Canada.
Ah ouais, ça, je ne savais pas, puis c'est nice que tu soulignes, parce que j'ai l'impression que quand tu t'en vas chez Winners...
Ben, c'est le Lululemon, Canada Goose et...
Et Winners aussi. OK.
Mais Winners est un détaillant. Lululemon, oui, ils ont des marques. Tu sais, mais je la vois plus comme une marque.
Mm-hmm.
Mais.
Ah, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Parce...
Moi, qu'est-ce que ça me fait penser dans qu'est-ce que tu dis? Puis on le voit dans beaucoup de choses. On le voit artistiquement, avec la musique. On le voit sur plein de points. Au Québec, on a beaucoup le syndrome du petit peuple. Ça date pas depuis hier, ça date depuis toujours. On nous a pointé du doigt, on nous a dit qu'on était des moins que rien. On a été des employés et non des employeurs. Toute la majoritaire partie du début du Québec, c'était les Canadiens, les anglophones qui contrôlaient les business. Fait qu'on s'est fait beaucoup pointer du doigt. Puis je pense que à partir de là, on a comme perdu un petit peu notre sens de se valoriser en tant que Québécois, peut-être je me trompe, mais on le voit même dans la musique. Oui, on a des Céline qui ont rayonné mondialement, mais les exceptions sont moindres, puis on a de la misère à avoir quelqu'un qui réussit ici, que ce soit dans le textile, dans la musique, en entrepreneuriat, puis que les gens supportent. Souvent, il faut que quelqu'un de l'extérieur nous reconnaisse, nous amène mondialement, internationalement, pour qu'après ça, on soit reconnu ici au Québec.
Exact.
Je trouve ça vraiment plate, cette mentalité-là. On dit la mentalité du petit peuple. C'est ce que je voulais dire là, dans le... un peu le Québec. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis Québécois. J'ai pas peur de me le cacher, mais je comprends aussi la réalité. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui se passe. On le voit encore aujourd'hui avec la musique. C'est difficile. Longtemps, le rap montréalais se prenait pour des Français. Là, tranquillement, on trouve notre identité. Puis je pense que c'est ça. Le Québec va rayonner internationalement quand il sera plus gêné de qui qu'il est, de se montrer vraiment sur sa vraie forme, qu'on est multi-diversifié ici, multi-ethnique, dans notre façon de parler, dans notre musique, dans nos vêtements, dans notre nourriture. On est reconnu mondialement pour nos plats, nos restaurants, mais c'est pas nécessairement des plats québécois, c'est pas du pâté chinois puis je sais pas quoi qu'on mange. C'est des plats culturellement diversifiés puis qui nous font rayonner internationalement, un peu comme New York, un peu comme Paris. Mais malheureusement, ici, ça prend toujours un peu plus de temps parce qu'en plus, on est une population qui est petite, Puis dans cette population, on est divisé francophone, anglophone. On a toujours de la misère à trouver notre place. Puis là, c'est intéressant de t'entendre parler que même dans le textile, ça se reflète, on le voit.
C'est dans tout, tu sais. Juste moi, d'avoir ouvert un magasin dans mon secteur, tu sais, c'est sur la Rive-Sud. Écoute, ça avait pas de bon sens là, de voir des gens avec qui tu as grandi ou que tu as travaillé des années ou que qui t'esquivent ou qui sont pas capables de rentrer checker ta boutique, qui sont pas capables. C'est un peu désolant de voir ça. C'est je trouve ça pathétique, même à...
ça, on le dit souvent, là, c'est le crab mentality, un petit peu que les gens ils t'aiment jusqu'à temps que tu rayonnes plus qu'eux autres. Puis là, ils se sentent comme dans l'adversité un petit peu. Puis que oh, là, tu fais mieux qu'eux. Ah, t'étais le fun quand t'étais comme eux autres. Mais là, quand t'essayes des trucs, pas dire que t'es meilleur, c'est pas ça le but. Mais dire que t'essayes des trucs, que t'as peut-être trouvé ta voie, eux autres l'ont pas trouvé. Il y a de la jalousie là-dedans, ils diront pas.
Tout de suite, c'était pourquoi tu fais pas juste en ligne? Pourquoi t'as ouvert un magasin? Pourquoi tu sais, les gens, ils parlent d'en ligne, en ligne, en ligne. En ligne, là, c'est 12%. Dans le vêtement, là, au commerce de détail au Québec, là, il y a 12% qui est acheté en ligne.
Ah, parce que
même en
achète.
2024?
Même en 2024. J'ai checké encore la semaine dernière. Mondialement, c'est genre 17%.
Le monde, ils veulent essayer. Là.
Le monde va encore en magasin. Là. Ouais, c'est pas fini. Là. C'est parce qu'Amazon existe ou Chine. Ou... Les gens, surtout dans le vêtement, c'est 12%. C'est en 2024, c'est sorti. Fait qu'il y a 88% des gens... Puis je l'entends depuis des semaines et des semaines. Là. Ah, c'est vide. Tu sais, là, il y a eu le Royal Mount qui est fait. Là, tout le monde, c'est fini. Ça sert à quoi, si, ça, ça. C'est pas fini, là.
Puis je veux dire, tu sais, le Royal Mount, de vous, la réalité...
Les gens magasinent différemment.
À Saint-Bruno, vous êtes quand même un petit peu à l'extérieur, comme nous, sur la Rive-Nord, il y a le Carrefour Laval. Ça fait un petit bout que j'ai pas été. Mais je veux dire, ça doit être un petit peu la même réalité. Après ça, on est de plus en plus ici à Montréal, on est de plus en plus au Québec... Il y a des moments aussi, je le sais que pendant le temps des fêtes, il doit y avoir un plus gros achalandage, mais ça serait quoi un peu la différence, tu pourrais dire, d'avoir un magasin dans un centre commercial comparativement à peut-être un local indépendant là, sur une rue, pignon sur rue, on va dire, comme les gens appellent?
Dans le fond, c'est quand même très bon d'être dans un centre commercial. Ce qui arrive présentement, c'est que les centres commerciaux demandent trop cher. Donc, ils ne s'adaptent pas à leur clientèle.
Au marché.
Ouais. Et puis, tu sais, il faut savoir que c'est une publicité aussi, tu sais. Quelqu'un qui voit ton logo à chaque jour, à chaque semaine qui vient, whatever it is, ça leur rentre dans la tête. Après ça, ils te voient sur Instagram, sur Facebook. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, ça vient avec une forme de publicité. Puis tu peux me dire, ouais, mais fais en ligne. Mais tu sais, après un an, pourquoi que mes ventes en ligne n'ont pas plus été propulsées? Oui, j'avais beaucoup de visites, mais j'avais pas beaucoup de conversions. Parce que les gens préféraient se déplacer en magasin. Encore aujourd'hui, ça fait 2 mois exactement qu'il est fermé. Et puis, à chaque jour, on m'appelle ou il y a des emails pour savoir un tel produit. T'as-tu encore ce produit-là? T'as-tu... Fait que, tu sais, le monde, ils veulent encore aller en magasin. C'est pas fini. Fait que la différence, c'est ça. Ça crée une visibilité. La problématique, c'est que tu te bats contre la compétition. Une fois que la personne a dépensé son 150-200$, s'il te connaît pas, après ça, il voit ton chose, il rentre, ah, ben il va revenir. Tu sais, ça veut pas dire que tu l'as perdu, mais son budget, il est déjà dépensé. L'autre affaire que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les gens... Ils savent déjà ce qu'ils s'en vont chercher parce qu'ils l'ont regardé sur Internet.
Ouais, c'est vrai.
Fait qu'ils s'enlignent déjà, ils savent déjà où c'est qu'ils s'en vont, ils savent déjà ce qu'ils s'en vont chercher. Puis si t'es chanceux, tu vas aller les chercher de cette manière-là. Mais être juste sur un coin d'une rue, je suis pas sûr à 100%. Tant que ton nom est pas fait. Parce que ça serait ma vision des choses. Une fois que le nom est vraiment fait, ça serait d'acheter des bâtisses puis de mettre le magasin. Mettons proche justement dans un Winners, là, tu sais, des fois tu vois comme un outlet. Là,
Smart plein, Center.
Ouais, tu vas à McDonald's, ouais, tu vas avoir toutes les Best Buy, da-da-da. T'es pas nécessairement dans les promenades, mais tu es dans un show, puis tu achètes ton emplacement.
Puis je sais que tu as fait une collaboration textile avec la merch de Farfadet, ouais. Un artiste que tu as parlé justement dernièrement, là, qui vient de la rive sud, de Saint-Hyacinthe, pour être exact. Puis qu'est-ce que tu penses un peu de ça, là, les collaborations des artistes avec des brands? Je sais que c'est une affaire, on le voit beaucoup aux États-Unis, la merch de chaque artiste est faite par un gros designer. Tu as parlé de Virgil tantôt, qu'il faisait beaucoup avec beaucoup d'artistes sans nécessairement qu'on le sache, mais il y a un designer derrière ça. Est-ce que tu penses que les artistes ici à Montréal ont pas nécessairement cette vision-là d'amener leurs produits, leur merch à un autre niveau?
Je pense que ça se fait tranquillement. Là. Tu sais, tu commences à voir les gars qui sortent des bières, qui sortent des boissons, qui sortent de la merch. Ça se fait tranquillement. Je peux pas dire que ça se fait pas. Je pense que ça pourrait se faire encore mieux. Aussi des endorsement deals. Je sais pas si c'est quoi. Là, tu sais.
Peux-tu développer?
Ben, tu sais, c'est que justement, faire... je sais pas, un gros deal avec une grosse corporation. Tu sais... pas Soulja, Loud l'a fait avec Uber Heat. Là. Je sais pas si tu te souviens, elle a fait une annonce. Ouais. Tu sais, des affaires comme ça, c'est ce qui est vraiment... c'est ce qui fait que les artistes font beaucoup d'argent côté américain. C'est les endorsement deals, puis c'est les partnership deals. Ici, c'est dur, mais en même temps, c'est dur parce que aussi, les artistes n'ont pas tant de reach. Fait que, tu sais, c'est pas toujours profitable aussi pour le brand de s'associer avec eux autres parce que ils vont pas chercher assez pour être profitable.
C'est une game de chiffres.
Il y a bien des artistes au Québec qui sont signés puis qui ont de l'argent gouvernemental puis que ça vend pas pantoute leur affaire. Je sais même pas pourquoi ils ont de l'argent encore. Là, mais ça, c'est un autre game. Là. Mais c'est ça, c'est le reach que tu vas chercher. Il n'y en a pas beaucoup là, d'artistes qui vont aller chercher beaucoup de gens. Tu as Soulja qui a un bon reach avec ses fans parce que ses fans, c'est des passionnés de Soulja. La moitié les suit. T'sais, moi, j'ai été dans leur show avec eux. Je vois comment ça se passe. Tu vois, même tête à chaque fois. Puis j'ai un énorme respect pour justement Soulja, Farfadet, Dion, tous ces gars-là. Même là, je l'ai vu avec eux à Brossard. T'sais, ils sont capables de. Ils ont créé quelque chose après comme 15 ans de travail. Puis ils ont une bonne équipe qui fait qu'ils sont capables d'aller reach tout le temps salle complète. Ils s'en vont en France là, dans les prochaines semaines. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y en a bien gros que tu vas voir faire des millions de vues, là. Puis donne-leur un produit à vendre, puis ça ne sera pas des millions de ventes, là.
Non, c'est sûr.
Il y en a qui sont même pas capables de remplir des salles, puis ils ont des millions de streams, puis de vues, là.
C'est vrai, je pense que avoir une communauté solide, puis avoir de l'engagement aussi au niveau de ton fanbase, puis... Tu sais, c'est une bonne question aussi, je me pose en parlant de ça. Toi, comment t'as fait pour reach ton engagement? Si t'aurais un conseil à donner pour moi à la maison, avoir plus d'engagement en tant qu'un artiste qui essaie d'avoir plus des fans qui tu sais, parce que l'analogie est toujours là, tu sais, ben, la musique en étant un artiste puis en ayant du monde qui ta communauté te suit puis tout, puis tu nous parlais justement tantôt quand tu disais quand t'as commencé. Pour moi, le fait que tu as été capable de vendre ton linge et tout sur ta première batch, puis que le monde venait, ça, c'est un certain... C'est de l'engagement en tant qu'à moi. T'sais, le monde sont engagés envers toi. Et c'est quoi un truc que tu pourrais donner pour les gens, avoir un peu plus d'engagement?
Moi, ma solution, moi, j'ai jamais eu un buzz. Tu sais, je suis allé à l'émission Dans l'œil du dragon.
OK.
J'ai un buzz 3 mois, mais tu sais, même avant ça, ça a tout le temps été... J'ai été consistant. Tu sais, on me l'a dit plein de fois, là, plein de monde, autant proche et non proche, m'a dit que moi, ma force, c'est que je suis consistant, tu sais. Je vais toujours continuer, je vais toujours... Des fois, je vais backer un peu, comme là, en ce moment, depuis 2 mois, moi, je pense à ma vie, je marche, je parle avec du monde, je regarde les opportunités, des solutions, je vais même pas au gym, j'ai pas le goût de forcer, là, en ce moment, j'ai juste le goût de healing.
Ouais, puis il faut que.
Puis de respirer, puis de repenser à ma vie, puis de voir tout ça. Tu sais, j'ai vécu une relation de 5 ans avec quelqu'un. On s'est séparés il y a 1 an. Puis je travaillais, tu sais. Je datais des filles dans la dernière année. Puis. T'sais, j'avais pas réglé ces affaires-là non plus. Là. Il fallait que je prenne du temps à réfléchir à tout ça. Mais je pense que c'est juste d'être consistant. C'est la meilleure façon. Puis les gens aiment ça de voir quelqu'un qui est consistant parce que est discipliné, parce que c'est pas donné à tout le monde.
100%.
Tu sais, va au gym. C'est bien beau là, au gym, là, mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est un tout d'être consistant. Là. C'est pas juste d'aller au gym.
C'est...
Tu vas au gym, mais tu sniffes à chaque soir.
Ça marche pas,
chose,
c'est vrai. 100%.
C'est ce que j'allais dire. C'est la consistance, mais l'équilibre aussi. Tu sais, oui, on est entrepreneur ou artiste ou peu importe quoi. On met notre corps et âme sur nos projets pour que ça se développe, ça marche, mais. Des fois, on néglige nos vies personnelles, notre santé mentale et physique. Ouais. Puis tu le dis, de prendre des marches, de prendre du temps pour soi, la santé mentale.
De s'informer.
De s'informer, de parler, d'avoir des conversations. Des fois, tu trouves pas une solution, mais ça te guérit. Un 5 minutes, parler avec un ami, un membre de la famille, ou même des fois, quelqu'un que tu connais pas, ils peuvent te dire des mots. Des fois, c'est pas une réponse que tu attendais, mais c'est des mots que tu n'avais pas entendu, que tu avais besoin. Puis dans la guérison, c'est très important parce qu'après ça, comment tu peux verser dans... On va vous donner l'analogie de verser de l'eau dans un verre d'eau. Mais si ton récipient il est vide, tu n'as plus rien à donner dans les verres d'eau. Tu essaies de créer de la musique, tu essaies de créer des vêtements ou de faire fleurir ton entreprise, mais tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas...
Moi, la vie m'a juste arrêté depuis 2 mois. Là, ça commence, là, je commence à avoir du mouvement, là. Mais ça bougeait plus. Je pouvais bien essayer n'importe quoi. Et c'était bloqué. Il n'y avait rien qui bougeait. J'étais comme tabarnak. Fait que ça m'a dit, gars, il faut que tu arrêtes. Là. La vie t'a dit d'arrêter. Puis ça, j'ai appris ça. T'sais, moi, j'ai été en thérapie il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que je consomme plus. Je bois plus. Puis je fais pas de drogue dure non plus. Je vais fumer de temps en temps. T'sais. Mais j'ai appris avec ça à m'écouter. Puis à prendre le temps. Puis. C'est super important apprendre à parler, justement, à trouver quand ça va pas ou quand ça va bien aussi, de trouver des outils. J'ai appris ça dans les 10 dernières années de ma vie. Fait que il faut pouvoir utiliser ces outils-là dans les bons et moins bons moments. Puis en ce moment, c'est ça, quand tu t'essayes tout, puis j'ai roulé là, pendant la dernière année, je travaillais à chaque jour, là. Puis j'arrêtais pas. Puis comme je dis, tu sais, j'avais pas réglé certaines affaires, j'avais juste mis ça de côté, tu sais. Fait que là, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne le temps de réfléchir un peu à ce que je voulais là, pour les prochaines années, de me restructurer. J'adore la musique, c'est une chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas toujours dans mes valeurs le monde de l'industrie. Fait que. J'aime sortir un projet de temps en temps, mais je suis pas sûr que je vais faire une carrière à moins d'un miracle. Je pense que je suis plus fait pour justement rouler mes business puis me concentrer là-dessus. Puis j'ai toujours voulu faire de l'acquisition d'entreprises. En ce moment, avec l'économie, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se mettre en vente. Puis c'est le temps de trouver les bons deals parce que des fois, tu peux faire « gars, je m'en vais à Québec aujourd'hui pour ça ». Fait que c'est le temps... que tu peux être en pouvoir de négociation. Parce que là, les gens sont comme tannés, ils sont écœurés. Si, c'est là que tu peux rentrer puis d'être capable de sortir avec un deal sans avoir besoin de mettre vraiment beaucoup d'argent.
Oui, puis il y a beaucoup de ces entreprises-là, ces grosses business-là qui ont marché fort ultérieurement dans les années passées puis qui se retrouvent en ce moment avec des CEO ou des directeurs artistiques ou des directeurs... grosso modo, qui sont, on va dire, des têtes blanches, qui sont vieux. Nous, on est jeunes, c'est nous l'avenir.
La relève.
On est juste entre les deux. T'sais, on n'est plus, on va dire, jeunes, on n'est pas des adolescents, on n'est plus des jeunes adultes, on est des adultes. C'est nous qui a la vision en ce moment. On sait ce qui se passe dans la culture, on a vu ce qui s'est passé avant, on a une idée un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est à nous, je pense, de faire le shift un peu dans tout ça. Les grosses entreprises, souvent, ils vont prendre nos idées puis ils vont essayer de les flipper à leur manière. Mais un moment donné, ça te prend quand même la taille qu'il y a eu, cette idée-là, parce que tu vas peut-être partir sur un bon cran, mais après ça, est-ce que tu vas être capable de le garder? Nous autres, on est des visionnaires. Je veux pas les entrepreneurs, c'est ça à la base. Déjà, pour créer une entreprise, il faut que tu aies une vision puis que tu la concrétises sans rien... Il n'y a rien devant toi, tu crées quelque chose, puis après ça, tu trouves un public, tu trouves un marketing, puis tu crées ta propre sauce. Mais je pense qu'ils ont besoin un peu de ça. Après ça, est-ce qu'ils se l'avouent? Est-ce qu'ils se l'avouent pas? Est-ce qu'ils vont de l'avant avec ça? La plupart, il y a trop d'ego, ils veulent pas le faire.
La,
mais on est dans
la génération plus vieille que nous sont très durs. Hein? Ils nous écoutent pas. C'est ça que je trouve...
Faut à leur tête.
Je trouve que on est dans un gros clash générationnel entre nous et les, mettons, le monde de 60 ans et plus. Ils connaissent tout, puis nos idées sont un peu toujours, on dirait, farfelues pour eux. Puis, on faisait ça avant, on l'a déjà fait, c'est plus comme avant.
Comme
c'est
en
plus
construction,
si...
on l'entend souvent.
Au lieu de trouver la petite solution, puis c'est comme toujours ci, puis ça. Puis en ce moment, si on est un peu dans le trouble, on va se le dire, c'est un peu à cause de cette génération-là aussi, mais ça, ils veulent pas se l'avouer, puis ils le diront pas, mais eux, ils ont profité, là. Ils ont profité de la croissance, ils ont profité du développement. Là, de mettons, on va aller à 1970 à aujourd'hui. Là, ça a développé en esti. Après ça, nous, on arrive dans un milieu qui est tout est saturé. Puis il faut faire notre place. T'sais, puis là, à chaque fois, tu arrives. Oui, il y a plein d'outils, comme on parlait des réseaux sociaux. Tu peux arriver avec une super idée, mais comme je dis tout le temps, ça, c'est comme la loto. Là, c'est le jackpot. Là. Si tu arrives avec ça, tant mieux. Là. Mais la réalité, c'est que...
Puis tu peux faire aussi beaucoup de vues, beaucoup de streaming ou avoir beaucoup d'attention sur toi sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Mais c'est la manière de trouver de monétiser ça après.
Ça me fait capoter des
fois.
C'est
pas la même chose. C'est comme de la poudre aux yeux un petit peu. Les gens,
il y en a plein qui savent pas comment le monétiser. T'sais.
Exact.
C'est ça la grosse question. C'est ça la grosse équation aussi. Je pense que c'est vrai. Puis... Tu sais, je suis curieux de savoir aussi, la question m'a frôlé l'esprit un peu. Tu sais, là, on arrive dans une ère, justement, là, on est rendu avec le AI et tout. Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais, d'une façon ou d'une autre, le AI va pouvoir incorporer l'industrie de tout ce qui est textile sans altérer l'inspiration puis la créativité derrière?
Ouais, je pense qu'au niveau AI, dans le domaine, ça va plus être dans la transformation, fabrication, là. Plus au niveau industriel des opérations pour que ça aille plus vite, mettons, pour produire des vêtements ou des affaires de même. Mais le AI dans le vêtement, c'est sûr que ça va avoir sa place, mais je pense pas que ça va éliminer grand-chose.
Non,
peut-être éventuellement avoir des boutiques un peu plus intelligentes. Tu auras peut-être plus besoin de personnel ou moins de personnel. Il va y avoir des affaires comme ça, mais à part de ça, du vêtement, il faut encore que le monde mette leur main à la pâte.
100%. Il y a toujours besoin d'un esprit créatif derrière l'industrie en tant que telle, parce que, je veux dire, c'est comme un AI DJ, c'est bizarre, tu sais, t'es comme, moi, me semble, il n'y a pas de processus créatif, il n'y a pas, oui, il peut aller chercher des transitions, etc., mais c'est pas la même chose.
Non, mais tu sais, peut-être dans les usines de fabrication, il va y avoir des robots, de la robotisation, ça se peut très bien.
Mm-hmm. 100%.
Mais dans la création même, c'est là que le chemin du AI s'arrête, c'est qu'il peut juste prendre quelque chose qui existe déjà, puis le multiplier plus rapidement... mieux que n'importe quel humain, mais dans la création de quelque chose, que ce soit une chanson, que ce soit un vêtement, il ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas comme nous. Nous, on est capable de taper dans un nuage de création, d'inspiration, puis de créer quelque chose, tandis que lui, il va taper dans une banque de données qui existe déjà, puis il va le multiplier plus rapidement. Fait que, oui, l'humain...
Il a encore besoin de couturière, je pense.
Ouais,
exactement. Ouais, moi, sinon, j'aimerais ça savoir un petit peu. Je sais que dans les dernières années, tu as fait des voyages aux États-Unis, en Californie, à LA, si je ne me trompe pas, faire un peu d'apprentissage, la musique ou avec le vêtement. Parle-nous un petit peu là, de cette étape-là de ta vie, puis qu'est-ce que tu as peut-être pu apprendre là-bas et ramener ici, les différences aussi là, sur la culture aux États-Unis, parce qu'on est comme le petit cousin. On a toutes les dérivées, mais tu sais, on est franco-américain, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passe en Amérique sur la culture qui la différence que tu verrais entre ici et là-bas?
Les gens sont beaucoup plus entrepreneurs, sont beaucoup plus ouverts d'esprit. C'est ce que je remarque là-bas. La température. Moi, j'en parle encore cette semaine. Je m'ennuie de ça. C'est ça, c'est là-bas, tu sais, faire de la business, ça peut se faire dans un ascenseur, le monde sont très réactifs, c'est très rapide. Au niveau de la musique, bon, il y a beaucoup plus d'argent qu'ici, là, on s'entend, là-bas, c'est de l'argent privé, là, c'est pas de l'argent gouvernemental. Mais après ça, j'ai vu aussi des choses illusoires là-bas aussi, là. J'ai vu du monde avec des 2 millions de vues qui font comme sont bien populaires sur Instagram, mais qu'ils dorment sur un matelas là, chez leur ami. Moi, dans le fond, pourquoi je suis reparti dans le vêtement, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui lui vend des jouets. Il vend des jouets pour enfants dans toutes les Walmart, Target, whatever, là, partout dans le monde. Puis il vivait vraiment la vie que j'ai toujours voulu vivre. Puis c'était pas un rapper, puis il y a un jet privé, puis il y a 12 chars dans le parking, puis il y a la maison sur le hills, puis il vit vraiment la vie. Puis c'est un gars ben smooth, ben humble. Fait que oui, j'étais allé là pour checker la musique, mais aussi les opportunités d'affaires. Puis je me suis dit, je devrais repartir dans le vêtement puis vraiment me concentrer là-dessus parce que il y a de l'argent à faire partout sur la planète avec ça. Je sais que les États-Unis, c'est un marché énorme. C'est ce qui m'expliquait beaucoup. J'aimerais beaucoup pouvoir percer aux États-Unis parce que je crois vraiment que quand tu es rentré là-dedans, les opportunités sont là. Mais j'ai beaucoup apprécié. Tu sais, je parle encore avec du monde de là à chaque semaine. Je m'ennuie de là, mais je veux retourner là avec les reins solides parce que c'est sûr que ça prend de l'argent. Tu sais, si tu veux bien manger là, aux États-Unis, ça te prend de l'argent. Puis il faut que tu arrives avec un concept. Je sais qu'est-ce que ça prend. Je me suis assis avec les banquiers, avec les avocats, avec d'autres hommes d'affaires pour savoir le plus d'informations possible pour pouvoir m'intégrer là. Puis dès que je vais pouvoir le faire, je vais le faire.
Fait que c'est quelque chose que tu te verrais retourner là-bas. Là,
au moins 6 mois par année, ouais, facile.
Puis j'imagine, c'est ça, dans le textile, comparativement à la musique, les barrières sont moins grandes parce qu'il n'y a pas de barrière de langage, premièrement. C'est du vêtement, c'est universel.
Ouais, la musique, même aux États-Unis, je le dis souvent, tu sais, je en ai parlé dernièrement avec d'autres, un Soulja qui a des millions de vues, des centaines de millions de vues. Il serait capable de faire sa place aux États-Unis malgré ça. S'il commencerait à faire des featuring et tout, je suis convaincu qu'il serait capable d'aller chercher un certain marché là.
Comme un Booba, admettons, qu'on a vu percer là-bas.
Exact.
Ayam.
Le monde sont très ouverts là. Tu sais, j'ai été avec les gars de Wu-Tang, Rough Riders, Scott Storch. Sont très ouverts là. Ils aiment ça. Tant que la musique est bonne, c'est ça l'important là, pour eux autres. Là,
Moi, ça me fait souvent penser à la réalité que même ici à Montréal, jeune en grandissant, j'avais plein d'amis qui écoutaient du reggaeton. Puis personne n'a aucune idée qu'est-ce qui se dit dans la chanson, mais l'énergie est là, le vibe est là, puis les gens ils catchent, ils reçoivent. Après ça, oui, peut-être c'est une musique un petit peu plus de vibe, dansant. Fait que les gens peuvent s'accrocher à cette énergie-là, ce mouvement-là. Ici, ben, le rap, on se le cachera pas, c'est... Oui, il y a une énergie de plus en plus, là, c'est plus... La musique qu'on entend, c'est plus un vibe que des punchlines, du lyrique, comme quand j'étais jeune. Ouais. Les groupes qui émergeaient, c'était vraiment axé sur les mots. À Star, c'est plus un petit peu ton
flow.
Ton flow, exactement, qui va créer l'énergie de la
exact.
Chanson.
Exact. Si ton flow est bon... T'sais, ils comprennent pas tout ce que, mettons, les Burna Boy ou les...
exactement, ouais.
Bad Bunny et tout.
Le Afro Trap, tout ça, là, qu'on entend beaucoup.
Moi, je suis bien Vibes Cartel, là. Vibes Cartel to the top. Il est ressorti de prison, là, puis là, ils viennent de sortir là, un track avant-hier. Là.
Ouais, j'ai vu ça passer avec un vidéo. Oh, ouais.
Pour moi, j'ai toujours eu un... Tu sais, comme j'étais un fan de Nipsey... j'aime les gars qui sont indépendants, qui rentrent pas dans la grosse machine, mais que la grosse machine les regarde puis les respecte, puis qui utilisent leurs ressources autour d'eux pour faire quelque chose avec. Ça a tout le temps été ma vision pour moi aussi. J'ai essayé de frapper aux grosses portes à plusieurs reprises, puis je me suis tout le temps fait tasser. Fait que je me suis toujours dit, ben c'est parce que j'ai à faire mon chemin à ma façon, tu sais. Puis j'ai beaucoup de respect. J'ai tout le temps suivi les artistes ou les entrepreneurs comme ça, tu sais. Je trouve ça cool de voir des personnes indépendantes parce qu'encore, comme on disait tantôt, des fois, il peut y avoir l'autre qui a, je sais pas moi, 100 millions de vues, puis l'autre qui en a 1 million, mais le gars qui a 1 million de vues, il a plus de reach que l'autre qui a 100 millions parce qu'il a un bon fanbase. Ouais, puis l'entretient de la bonne manière.
Comme tu as dit, d'être indépendant aussi, hein, moi aussi, c'est un peu ma vision, là, ma manière de faire les choses. Un peu comme toi, j'ai cogné à des portes, je me suis fait dire non, 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 non. Fait que quand personne t'ouvre la porte, ben, tu crées ton cadrage. Moi, j'ai exact. Cette mentalité-là aussi, j'ai grandi comme ça. C'est ce qu'on m'a montré. Puis je respecte aussi beaucoup les gens qui créent leur propre porte, leur propre plateforme. Puis on est dans ce era-là en ce moment qu'on peut se le permettre. Ça n'a pas toujours été réalisable quand les studios coûtaient 500 000, yes. quand que les caméras coûtaient 200 000. T'sais. Là, on est dans un air qu'avec une coupe de centaines ou de 1000 $, tu es capable de mettre des choses à jour puis de réaliser un podcast comme on le fait aujourd'hui ou un album ou une compagnie de textile. Puis c'est important, hein? C'est souvent des gens comme nous qui font avancer la culture. Après ça, profitablement, c'est souvent les plus gros qui empochent. Mais les gens qui font avancer la culture, qui font découvrir des nouveaux trucs, une nouvelle énergie, c'est souvent des indépendants, autant dans la musique, dans le textile, dans les entreprises, des nouvelles idées. C'est souvent des gens un petit peu rebelles, marginales, qui vont créer de nouvelles portes de sortie. C'est intéressant de le mentionner. Puis je pense que tu fais partie de ces gens-là. Félicitations pour tout ce que tu fais. Moi, je regarde ça de l'extérieur puis je trouve ça inspirant. À Montréal aussi, t'sais, on voit beaucoup d'artistes, on voit beaucoup de gens de la scène dans l'événement, tout ça. Mais dans le textile, j'en vois qui s'essayent. Mais comme tu as dit, c'est la constance. Hein? Puis on le remarque, les gens qui vont s'essayer, continuer, répéter.
Ben, c'est parce que c'est pas si facile. Même si tu as les réseaux sociaux, même si tu as sort un brand, ça veut pas dire que le monde va l'acheter tant que ça. Comme je dis tantôt, des fois, ils vont rester pris avec, puis ils arrêtent là, puis ils vendent une batch, puis ils pensent pas en faire une deuxième. Puis,
exact, exact. C'est, des fois, c'est difficile, on a des idées en tête, on est super excité, on les met en pratique, ça marche plus ou moins comme on veut, puis on se dit « Ah, ça marchera pas ». Des fois, c'est un timing, mais des fois aussi, il faut juste répéter jusqu'à temps que les gens... Tu sais, t'as une idée dans ta tête, toi, tu te vois là, mais les gens, est-ce qu'ils te voient encore là? Tu sais, il faut que tu les amènes. Ça vient du marketing, du branding que tu vas mettre accroché à ton produit qui est super important, sinon quasiment plus que le produit, c'est le valoriser.
Je pense que le marketing est très, même plus important que le produit aujourd'hui. 100%. À moins que tu aies vraiment un produit que les gens aient besoin, puis que genre tu arrives avec un produit qui n'existait pas, là, mais aujourd'hui c'est très dur.
Oui, puis il y en a tellement eu qu'on est rendu, comme un peu tu le disais, saturé. Il n'y en aura jamais trop, mais saturé, c'est qu'on n'est jamais loin du trop. Fait que là, c'est quoi les nouvelles idées? T'sais? C'est pour ça que je pense qu'on voit beaucoup dans le dernier 10 ans, on refait les mêmes films avec d'autres acteurs, on fait des remixes de chansons, on refait des événements thématiques qu'on a déjà vus. C'est du pré-cuit, là, c'est du micro-ondes un peu, qu'est-ce qu'on nous sert là, à manger, puis à écouter, puis à voir, puis à porter. Les modes aussi, je pense, on le dit, aux 20, 25, 30 ans, ils reviennent. On le voit beaucoup dans les modes, là, les couleurs, les textiles, les manières que le
vintage.
Exactement, ça revient. Les lunettes, les chapeaux, les souliers, les bottes, on le voit, ça revient, l'énergie revient. Puis ça, c'est dans la culture, la musique aussi, là, on le voit, les samples, là, on en voyait moins, c'était beaucoup le Atlanta qui rayonnait avec le trap, là, tranquillement, on transitionne vers quelque chose d'autre. Le rap est tellement mélangé à cette heure avec tous les styles confondus, que ce soit reggae, reggaeton, du R&B, tu sais, tout. On est dans un clash un petit peu de tout, là, je pense qu'on peut mélanger, puis dans le vêtement, ça paraît beaucoup. Puis tantôt, on parlait de collaboration, ta collaboration avec Farfadet, Craze, si je me trompe pas, ouais. Qui est sorti. Parfait. Puis je voudrais savoir si c'est quelque chose qui t'intéresserait à pousser, des collaborations avec des artistes, amener ça à un autre niveau, en faire plus.
Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Cool, cool, cool. Puis,
Je pense que c'est toujours bon d'en faire. Ça amène aussi une visibilité pour la marque. Puis, ça rend service aussi à l'artiste ou le sportif ou whatever.
Je pense que c'est juste bon pour le game. Hein, puis, c'est des collaborations. T'sais, oui, il y a des collaborations entre artistes, mais la culture est plus grande que ça. Qu'on fasse un podcast aujourd'hui avec toi ou avec un autre artiste, qu'un artiste fasse une collaboration avec un textile. Il y a plein de sauces qu'on peut mélanger un peu comme ça. Puis on parlait de la mentalité du petit peuple tantôt au Québec. Je pense qu'il faut embrancher ça, que les artistes, les entrepreneurs s'ouvrent les yeux puis créent des choses plus grandes que nature un petit peu. D'arrêter d'essayer de reproduire qu'est-ce qu'ils ont déjà vu puis de produire quelque chose qui n'a jamais été vu puis d'amener ça à un autre niveau. C'est comme ça qu'on va monter la marche puis se retrouver sur un podium international, je crois. Puis, shout out à ce que tu fais. Il en faut des comme toi, des entrepreneurs, des gars qui lâchent pas. Moi, ça m'inspire parce que je pense avoir cette graine-là aussi en moi. Puis de voir d'autres mondes pouvoir le faire, bien, c'est inspirant. Puis ça donne de l'énergie parce que tu l'as dit, c'est pas toujours facile. On se met en question. On passe du temps, de l'énergie puis de l'argent aussi là-dedans pour mettre ça devant les gens.
Mes parents, moi, souvent, ils me comprennent pas pourquoi je veux faire ça. T'sais, c'est deux personnes qui ont travaillé pour le gouvernement toute leur vie. T'sais. Puis ça demande pourquoi je veux me casser la tête de même. T'sais, pourquoi tu vas pas juste chercher un job? Pis... Mais là-dedans, le plus gros accomplissement que je fais en étant entrepreneur, c'est mon développement personnel. C'est comment je grandis personnellement par rapport à tous ces événements-là qui peuvent se passer. Les cinq dernières années ont été très, très spéciales. C'était une montagne russe, là, pas sincèrement. Tu sais, il y a eu la COVID. Puis c'est un peu ce qui a coûté, malheureusement, mon couple. Moi, j'étais très impliqué à essayer de faire rouler mes affaires, puis... Elle avait ses affaires aussi, mais je ne regrette rien. C'est ça, je dis tout le temps. T'sais, j'ai fait faillite, moi, pendant la pandémie. Puis, tu sais, il a fallu que je reparte, pas de crédit, pas rien. J'en ai toujours pas. Là, ça a été... Je me suis fait encore rentrer dedans il y a deux mois. Puis, il y a bien du monde qui est dans mes souliers.
Il s'effondrait.
Ouais, pour vrai, ouais. C'est pas toujours le fun, mais je suis comme je dis tout le temps, je suis pas malheureux. Je suis vraiment pas malheureux parce que je vois toujours le bout. Je sais que quelque chose de bon s'en vient. Je sais pas quel jour, j'ai hâte qu'il arrive, là. Mais je sais très bien que des bonnes choses s'en viennent. Je suis entouré. Tu sais, je rencontre tout le temps au travers de toutes ces expériences-là d'autres personnes, d'autres. Tu sais, il y a toujours du nouveau monde. Moi, quand mon magasin a commencé à moins bien aller, là, il y a deux personnes qui sont atterries dans ma vie. Il s'appelle, pour m'aider là-dedans, il s'appelle Richard puis Pauline. Richard puis Pauline, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le vêtement, 30-40 ans. Mes grands-parents qui sont décédés aujourd'hui, ils s'appelaient Richard puis Pauline.
Des fois, c'est des signes.
C'est un drôle de... Mais moi, je l'avais même pas réalisé. C'est mon père, quand j'ai dit hier, j'étais avec Richard puis Pauline, il m'a regardé comme... Richard puis Pauline, c'est drôle, ça. Puis ça m'a fait dire, gars... sur le bon chemin. Tu sais.
À ta place.
Moi, je regarde ces affaires-là, c'est les signes, j'y regarde, il y en a qui peuvent dire il est fou, c'est pas grave. J'ai toujours eu des signes dans ma vie qui m'ont dit de continuer. Puis, je suis convaincu qu'à un moment donné, je vais avoir... Je dis souvent, j'ai pas ce que je voudrais matériellement, financièrement, présentement dans ma vie, mais je suis quand même assez où c'est que je voudrais dans ma vie. Tu sais, j'ai le choix de faire ce que je veux à chaque jour.
Ça, puis, c'est le plus beau cadeau du monde.
Puis, ouais, c'est vraiment un beau cadeau. T'sais, moi, au lieu d'acheter une maison ou un condo ou d'avoir une famille, je veux une famille. Ça fait partie d'un de mes rêves. J'aimerais ça avoir une belle grande famille. Puis, au lieu de m'hypothéquer dans une maison, ben, je me suis hypothéqué dans mes projets. C'est ça le contraire. T'sais. Moi, je me suis endetté avec mes projets. Il y en a qui s'endettent avec une maison, une piscine, un chien, un chat, puis blablabla. Mais aujourd'hui encore, je m'assois avec des amis qui ont mon âge, puis ils me le disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas plus heureux, puis même que des fois, ils lâcheraient tout, mais qu'ils peuvent pas parce qu'ils sont pris avec tout ça. Fait que La différence que j'ai, c'est que moi, je peux vivre de ce que j'aime, même s'il y a des bouts très durs, mais il y a d'autres bouts qui sont le fun, puis c'est ça qui m'amène à continuer de le faire.
C'est ça la vie d'entrepreneur, de l'entrepreneuriat puis d'être entrepreneur. Hein? Il y a des bouts le fun, il y a des bouts le moins le fun. Le monde qui regarde de l'autre côté de ça, il trouve ça bien cool. Ah, ça a l'air exceptionnel. Il ne voit pas l'envers de la médaille. Des fois, il est
mis en demeure, douloureux. Puis les
exactement.
Ça.
Mais il y a de la souffrance derrière chaque entreprise. Blood, sweat and tears, comme ils disent. Puis c'est l'acharnement. Il n'y a personne qui a tout cru dans le bec ou qui they got it all figured out avant que ça commence. T'sais. Il faut que tu fasses ton cheminement, il faut que tu fasses ton parcours, ben, tes apprentissages.
Je pense, pour vrai, tous ceux que j'ai regardés qui ont eu un succès, là, à part, on va tout le temps dire, les exceptions qui ont un buzz, et même encore, si tu regardes tout leur background, là, habituellement, là, ça prend tout à peu près 15 ans avant vraiment qu'ils soient reconnus dans ce qu'ils font, puis ci, puis ça, là. Regarde Lil Wayne, ça a pris 15 ans. Regarde Drake avant vraiment d'être reconnu puis d'être fort. Puis ça a pris.
Nipsey que tu as mentionné tantôt.
Tu parlais de Gary Vaynerchuk, tu parles des Grant Cardone, tu parles de tout. Andrew Tate, tu sais, le monde, il pense qu'il est sorti. Chris, Andrew Tate fait 20 ans qu'il court après ça. Là. C'est pas, il n'est pas sorti de nulle part. Là. Il a fait plein d'affaires avant, là, des télé-réalités boxeur, puis des affaires de même. Tu sais, ils ont tout un parcours que. Avant que ça explose là, aux yeux de tout le monde, mais ils ont fait leurs petites affaires, puis petit à petit, puis à un moment donné. Oui, il y a des exceptions, là, mettons Elisabeth Rioux, ou des affaires de même là, qui ont popé, puis sont arrivés au bon moment, mais c'est vraiment minime. Là.
C'est le timing, puis dans l'acharnement, dans la beauté de la chose. Amené. Exactement.
Gilbert, je voulais pas parler de lui, là, mais. Juste pour rire, là, ça a pris 15 ans là, avant qu'il vraiment il débloque. Il y en a plein.
Ouais. Puis tu le mentionnes, juste pour rire, Cirque du Soleil, qui sont sinon les plus grosses entreprises québécoises. Malheureusement, souvent après ça, c'est vendu aux Américains ou à quelque chose d'autre. On a de la misère à retenir nos business ici. Puis...
Regarde Couche-Tard.
Ouais.
Regarde Couche-Tard. Dans le fond, ils sont en train de regarder pour acheter 86 000 dépanneurs en ce moment.
Et Circle K, là, c'est-tu ça, là, au States, ça, dans le fond?
Ben, Circle K, c'est déjà à lui.
OK, c'est ça, 7-Eleven. Ça se peut-tu qu'il parle
de
ça?
Il va essayer d'acheter 7-Eleven présentement. Mais tu sais, lui, à 31 ans, il y avait un... Excusez.
Ouais, c'est ça, c'est dur des fois pour les entreprises québécoises. Hein? On les voit s'élever internationalement, puis après ça, ils ne sont pas capables de continuer. Ils veulent l'argent tout de suite, mais c'est la culture. Hein? C'est comme ça qu'on bâtit une culture en continuant puis en gardant nos entreprises ici localement. C'est pas d'être selfish, mais c'est de générer aussi de l'argent qui peuvent être redistribués après
ben,
ça.
C'est parce qu'il n'y a personne pour les acheter au Québec. C'est la majorité du temps, c'est ça l'affaire. Puis j'en parle souvent, c'est que dis-moi, les milliardaires qui se sont créés dans les 20 dernières années, il n'y en a pas de nouveaux milliardaires, de jeunes milliardaires qui apparaissent. Il y a l'autre, là, il y a Luc Poirier là, qui n'est pas loin de l'être, là, mais à part de ça, là, c'est les mêmes là, depuis. C'est Saputo, justement, les gars de Couche-Tard, Cirque du Soleil, tu vas avoir Mitch Garber, tu vas avoir les Desmarais, ces affaires-là. Mais... Il faut se rappeler que le gars de Alain Bouchard, il est parti avec un dépanneur à 31 ans, là, puis tout le monde riait de lui avec son dépanneur. Là, puis aujourd'hui, ben c'est lui le plus riche au Québec, puis il n'y a pas grand monde qui le sait.
Il a cru en sa vision.
Mais il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas du monde qui ont l'argent pour les acheter des fois aussi, les entreprises. C'est aussi le problème. Regarde aussi, j'ai regardé hier, j'étais au barbier. T'sais, regarde tous les barbers qui se poussent. Là. C'est tous des Puerto-Ricains, des Mexicains. C'est pas des Québécois. Là. Regarde les dépanneurs, c'est tous des Chinois. T'sais, en même temps, on chiale, mais les Québécois veulent pas prendre ces risques-là.
C'est vrai.
Ils veulent pas le faire.
Encore là, la mentalité du petit peuple, malheureusement. On le voit 100 fois puis au long de l'histoire. Puis, je sais que tantôt, tu parlais des dragons, une émission à laquelle tu as participé. Qu'est-ce que tu as retenu un peu de ça? Puis, y a-tu du... C'est quoi le mind state derrière ça? T'as-tu retenu des bonnes leçons qui t'ont permis d'avancer à partir de là?
Bien, l'émission en soi, c'est une bonne émission qui te permet de te faire voir là, en tant qu'entrepreneur, qui te donne un buzz de 3 à 6 mois après. La majorité des deals comme moi qui disent c'est un deal, il n'y a pas de deal. Ils font pas de deal. Les gars, ils mettent pas d'argent ou ils s'arrangent pour pas en mettre, puis toutes ces affaires-là. Fait que ça, c'est un peu décevant. Moi, quand je suis allé là, c'était surtout pour voir l'envers de la médaille, c'était de voir le vrai côté des affaires. Puis ça, j'ai pu me le permettre parce qu'en même temps, j'ai fréquenté quelqu'un qui était chez Juste pour rire, donc ça m'a permis d'avoir les yeux plus proches. Mais c'était voir les affaires, l'autre monde des affaires. T'sais, moi, j'arrivais d'Otterburn Park, je connaissais des petits entrepreneurs locaux puis tout. Puis moi, j'ai toujours voulu viser l'international puis avoir des grandes entreprises. Fait que là, j'ai pu tomber dans une grosse boîte puis commencer à voir puis comprendre les affaires. Puis c'est là que tu comprends que c'est vraiment les contacts, les ressources, puis il y a aussi de la chance derrière ça qui t'amène à pouvoir arriver où c'est que tu veux aller. Tout est connecté. Tu sais, c'est du monde, comme je disais, qui ont parti la machine depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, puis qui font juste l'entretenir parmi leurs contacts et tout. Puis c'est très dur de rentrer dans la boîte quand tu viens pas d'une famille de riches, quand tu n'as pas toutes les ressources autour de toi. Tu es un outsider, tu arrives, le monde t'écoute, mais c'est comme t'es qui, t'es quoi, tu fais. Tu sais, il y a beaucoup de barrières entre toi et ces personnes-là. T'sais.
Yes sir, yes sir. Merci pour cette belle conversation-là. Je pense qu'on a appris beaucoup aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sur le textile. Tu nous as ouvert les yeux. C'est un monde des fois fermé que oui, on l'achète le produit, mais on voit pas nécessairement qu'est-ce qui se passe derrière puis d'entendre les...
Ouais, j'apprends encore.
Exactement. Puis moi,
j'apprends puis je découvre encore des nouvelles avenues, des nouvelles personnes, des... Je suis en train d'être proche de des gens, tu sais, qui sont proches de justement toutes les grosses, là, les Tic GA, les Winners, les Pentagon, les Parasuco, toutes les grosses Point Zéro, les grosses machines là, qui roulent depuis. Puis là, tu commences à comprendre tout comment ça fonctionne. C'est ça qui est le fun.
Ben ouais. Des fois, c'est ça. Il faut que tu regardes un peu autour de toi ce qui s'est fait puis ce qui se fait à l'international pour comprendre. Oui, c'est pas de s'adapter comment ils le font, mais de comprendre l'univers dans lequel tu veux interagir puis fleurir. Tu peux pas jouer au hockey si tu regardes pas c'est quoi les grandes ligues, qu'est-ce qu'ils font si tu veux aspirer à être un joueur dans une ligue. Là, moi, je suis un peu comme ça tout le temps. En plus, dans ce qu'on fait, il n'y a pas de cours pour la plupart. On apprend sur le tas en le faisant, en se plantant,
exact.
En remettant le genou, en se relevant, en répétant, en retombant, en le refaisant. 99 fois, la centième fois, c'est la bonne. Faut juste pas lâcher, c'est la consistance, c'est ça la clé. Après ça, le timing va arriver à 50e fois, à 60e fois, mais si tu lâches pas, ben, un moment donné, tu vas le rencontrer. Puis de persister aussi, ça prouve un peu souvent aux gens que tu es à la bonne place. Puis je pense que tout le monde se cherche sur la Terre, la planète, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qui ils sont. Puis quand tu as trouvé ta place, puis tu es prêt à tout risquer pour t'y rendre, je pense que ça prouve beaucoup de force mentale. Les gens, ça, ils l'oublient. Puis c'est inspirant pour les autres. Hein. Il y en a qui vont passer toute une vie à se dire peut-être, ah, je devrais, ah, j'aurais dû. Mais prendre les rênes de sa vie, puis de prendre les risques, mettre ses couilles sur la table, puis de les amener à un autre niveau, c'est inspirant pour tout le monde. La plupart le diront pas. Par orgueil, mais merci pour qu'est-ce que tu fais puis d'être un entrepreneur québécois. J'ai hâte de voir ton parcours dans les prochaines années, puis je pense qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Élever la plateforme de l'art, comme vous le savez, avec le Cats.
Tony.
Puis aujourd'hui, on avait Julien de chez Textile.
Yes, sir.